Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM.
Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, on va vous raconter une très belle histoire, celle d'une forêt qui a été engloutie par les eaux. Et pour en parler avec nous aujourd'hui, il y a Thierry Ruiz. Thierry, bonjour.
Bonjour Dominique.
Donc vous êtes chercheur et vous avez c'est en plongeant que vous avez découvert cette forêt. Vous allez nous en dire plus. Vous êtes accompagné donc par Annie Perrault.
Oui, bonjour. Bonjour Dominique.
Et vous êtes, vous, chercheuse. Vous êtes égyptologue, mais ce n'est pas à ce titre, bien sûr,
tout
que vous
fait.
Êtes ici. Mais c'est parce que vous êtes aussi plongeuse et qu'en même temps, vous accompagnez donc Thierry dans cette découverte.
Tout à fait.
Alors, je suppose... Enfin, bon, je vais vous laisser la parole déjà pour commencer peut-être à nous raconter comment s'est fait cette découverte.
Alors absolument, donc nous sommes un groupe de plongeurs qui se prénomme le GRAL, le groupe de recherche archéologique du littoral languedocien, et nous plongeons en fait aux abords du golfe du Guillon et plus particulièrement du golfe d'Aigues-Mortes au large de Canon-Palavas pour ceux qui connaissent. Nous nous intéressons en fait dans un premier temps à des fouilles archéologiques autour de la romanité, puisqu'il y a donc eu dans les lagunes du transport de lithique qui a servi à fabriquer des monuments archéologie, des monuments romains de l'époque.
Alors lithique, c'est quoi lithique ?
Lithique, ce sont des pierres, en
D'accord.
fait, des pierres de construction, exactement. Et c'est donc au cours de plongée où nous recherchions en fait une épave potentielle qui aurait pu être celle qui transportait ces blocs rocheux que nous avons découvert des éléments ligneux verticaux.
Alors, c'était quoi ? Ça ressemblait à quoi, Annie ?
Alors, tout simplement, moi, quand Thierry m'en a parlé, j'ai dit oui, c'est une bonne blague, parce que sur le bateau, on me raconte beaucoup de sottises, parce qu'on est quand même une minorité de femmes hein, sur ce bateau. Et en fait, à la fin de notre première mission de fouille, je suis allée avec notre scientifique qui
Vous
nous encadrait, Marie-Pierre Gézégou, et j'ai plongé avec elle. C'était le dernier jour de la fouille. On était allées voir, toutes les deux, on ne connaissait pas ces éléments ligneux. Et effectivement, c'est là que j'ai découvert que c'était des troncs d'arbres, des souches, avec des troncs qui émergeaient d'une vingtaine de centimètres. Et c'était vraiment des arbres qui étaient émergés.
Alors là, a commencé donc finalement, je suppose que ça a été une nouvelle incroyable.
Une nouvelle qu'il a fallu quand même confirmer par des analyses, parce que c'est vrai que trouver des arbres au fond de l'eau, ce n'est pas forcément très commun. Alors pour revenir justement sur cette minorité féminine, mais quantitative, mais pas qualitative, avec qui nous plongeons, eh bien nous avons en particulier des chercheurs, et notamment Marie-Pierre Gézégou, qui est chercheuse du DRASM, qui s'est occupée en particulier de réunir aussi une équipe de professionnels pour pouvoir faire des analyses au carbone 14, pouvoir dater ces éléments-là, faire de la dendrochronologie, essayer d'étudier, on va dire, l'âge des arbres à partir des cernes, etc. Donc on a réuni des gens qui ont les capacités analytiques de pouvoir en dire un peu plus sur l'origine et la provenance de ces souches. Et il s'avère qu'on a affaire effectivement à des souches d'une forêt qui était en place, et là pour le coup il y a entre 8000 et 8500 ans.
Alors, là, on commençait à ce moment-là, je suppose, une série de travaux parce qu'il fallait à la fois protéger ces souches qui devaient être d'une grande fragilité et en même temps en savoir plus. Alors, vous avez dû faire quoi ?
C'est-à-dire que le jour où nous sommes allés voir ces fameuses souches avec le directeur de fouille, elle a fait des prélèvements en vue de datation. Alors, ces datations, elles sont parties aux États-Unis pour une partie d'entre elles, à Miami, et d'autres à Poznań, en Pologne. Et le résultat, Thierry, tu me complètes si je me trompe, le résultat était tellement incroyable qu'on a organisé avec le DRASM, le département de recherche archéologique subaquatique et sous-marine, qui est situé à Marseille, plusieurs des campagnes de fouilles.
Parce que c'est quelque chose quand même d'assez extraordinaire. Enfin,
absolument.
Est-ce que ça se passe souvent dans le monde comme
non.
ça de trouver
Il y a trois sites qui sont connus, mais notamment en Europe du Nord, en Grande-Bretagne, Norvège.
On appelle le Doggerland.
Voilà, mais qui sont uniquement situés dans l'Atlantique. En Méditerranée, c'est le premier et le seul actuellement connu, qui soit connu.
Alors, on ne va pas dire où il est parce que vous n'avez pas du tout envie de voir arriver une armée de plongeurs sur le site. C'est très fragile, je suppose.
Extrêmement fragile. On a affaire à des souches qui ne sont pas fossilisées. Donc, c'est du bois en place. Il faut imaginer comme si jamais il y avait eu, par exemple, une élévation du niveau de la mer de quelques mètres qui aurait submergé les arbres actuels. Et donc, on a en fait des souches extrêmement spongieuses qui ont été, par chance, épargnées d'une totale dégradation parce qu'elles ont été recouvertes par, on en parlera peut-être un petit peu plus tard, ou tout de suite, voilà, elles ont été recouvertes en fait par des sédiments lagunaires. Donc pour vous le faire simple, on est dans le golfe du Lion et nous sommes à une époque, 8000 ans, qui correspond en fait à, on est en plein réchauffement climatique, nous sommes dans une période interglaciaire. Le dernier réchauffement climatique étant celui du Wurm avait atteint un paroxysme il y a à peu près 20 000 ans. Et donc, depuis 20000 ans, on a une remontée de la température planétaire avec auquel est associée une élévation du niveau de la mer.
Sur 20000 ans, vous venez de me dire, on monte de combien ?
C'est phénoménal. Alors, en 20000 ans, on a pris 5 degrés.
5 degrés en 20000 ans.
Qui ont conduit à 123 mètres d'élévation du niveau de la mer.
Ah oui, 123 mètres.
123 mètres. Et donc, cette élévation s'est faite en trois phases. Une phase un petit peu lente au début, une sorte d'initiation. Une phase très rapide qui s'est ensuite recalmée il y a à peu près 8000 ans. Vous voyez, c'est la date à laquelle on a trouvé, ou du moins les arbres sont contemporains de cette période. Un gros ralentissement. La mer ne monte qu'à peu près 1 mm par an. C'est à peu près la vitesse que nous avions.
Et alors, ces souches étaient vivantes. Alors, elles ne sont pas... On a l'impression, finalement, que quand on parle de quelque chose qui est vraiment ancien dans les grottes, etc., on n'arrive pas à... Mais là, ces souches, elles sont vivantes ou elles ne sont plus vivantes?
Non, ce sont des arbres morts. La forêt a été immergée et maintenant tout est mort à cette époque-là. Ça correspond, si vous voulez, les datations que nous avons, elles sont très proches de la mort de la forêt.
Mais alors on dit qu'il y a quand même des insectes, hein, enfin qu'elles peuvent être encore ravagées par des bêtes, non, c'est une erreur, hein.
Oui, en fait, ce que l'on trouve, en fait, l'attaque des bois sous-marins, ce sont ce qu'on appelle des tarés, qui sont des petits vers marins. Il y a des espèces qui ont la capacité de reforer en fait, ce bois, mais ce ne sont plus les insectes classiques que l'on peut retrouver
sûr.
De l'époque.
Oui, alors, ce sont des insectes d'aujourd'hui qui viennent attaquer, quoi.
Ce sont certains sont des arthropodes, mais sont des espèces sous-marines, hein, on est bien d'accord. Hein, pas de
oui,
surface.
Oui. Oui.
Et là, on parle, en fait, donc si le niveau de la mer était bien inférieur à ce niveau actuel, donc il faut imaginer, quand on est au large, quand on est à la mer, à Palavas, qu'en fait, le littoral devait se trouver plusieurs dizaines de kilomètres au large. Et donc, tout cet espace-là était un territoire continental émergé.
Mais comment vous expliquez, que vous avez encore eu la chance de découvrir ces restes?
Et c'est là que c'est formidable. C'est le contexte, en fait, lagunaire qui a permis ça. Donc, nous avons des lagunes que nous devons, en fait, aux sédiments rhodaniens. Donc, il faut imaginer que la mer remonte. Donc, elle va, on va dire, vers le nord. Et dans le contexte précis du golfe du Lion, nous avons ce qu'on appelle une dérive liguro-provençale. Donc, pour faire simple, il y a un courant maritime qui va en gros du golfe de Gênes au golfe du Lion et qui redescend jusqu'en Espagne à Cap de Creus. Donc une dérive d'est à ouest. Donc il faut imaginer la mer remonte avec une dérive d'est à ouest. Le Rhône balançant son panache a donc créé des sortes de dunes hydrauliques qui se sont progressivement structurées avec l'évolution du niveau de la mer remontant. Et lorsque le niveau maritime s'est calmé, c'est-à-dire lorsqu'on a eu en fait un ralentissement de l'hydrodynamique, ces dunes ont pu se structurer et former en fait un cordon littoral, un cordon dunaire, le fameux lido que nous avons aujourd'hui,
alors,
mais qui était bien sûr bien plus loin au large. Et donc entre le rivage et ce lido, une lagune s'est installée avec un sédiment lagunaire particulier. C'est là où les arbres sont.
Du sable finalement
plutôt quelque chose
qui s'est accumulé. Et alors, comment vous avez pu justement vous débarrasser de cette argile?
Alors, donc, on a des techniques. Peut-être que Annie, tu vas en dire un mot.
Carrément de la fouille à ce moment-là.
Oui, comment vous avez...
Donc, quand on avait repéré plusieurs souches, il a été décidé de les étudier. Donc, pour cela, il a fallu dégager tout le sable. Tout le sable sur une certaine superficie avec, à l'aide de ce qu'on appelle des suceuses avec des gros tuyaux annelés qui permettent d'aspirer le sable, qui permettent d'aspirer le sable et les galets et de les rejeter plusieurs mètres plus loin. Une fois qu'on a fait, un dégagement assez grossier, on va déterminer un carré de fouille, donc avec un carouillage, avec des... Donc,
on ne va peut-être pas rentrer dans tous les détails, enfin bon.
Et
donc
ensuite,
on dégage l'argile d'abord.
Non, on a le sable. Le sable d'abord. Ensuite, l'argile. Et puis, on va voir ce qu'il est possible d'étudier et de prélever. Donc, prélever une souche, ça veut dire prélever la partie du tronc qui émerge et les racines. La racine principale et tous les systèmes racinaires
horizontaux. Et il y a encore de la profondeur?
Non, pas beaucoup. Parce qu'on est, si vous voulez, on est à une dizaine de mètres de profondeur de l'eau. Et ensuite, on va creuser, je ne sais pas, peut-être jusqu'à 40-50 centimètres, pas plus loin.
Ah oui.
Et c'est assez compliqué. Donc, il y a un système qui a été inventé avec un appareil qui permet de lancer de l'eau sous haute pression pour découper l'argile. Thierry peut peut-être en parler.
En plus, c'est un système qui a été inventé par les membres du Graal, qui est unique, donc, qui permet en fait, en gros, comme d'utiliser de l'eau sous pression qu'on peut injecter et passer en fait par une sorte de découpe hydraulique tout autour de la souche, y compris sur le dessous. Ensuite, on arrive à contenir la souche.
Vous emmenez la souche.
On la contient, on l'amène, on la pose dans une sorte de poubelle et on la remonte avec ce qu'on appelle des parachutes de levage, qui sont des ustensiles qu'on va gonfler, des grosses bouées que l'on gonfle, qui permettent de remonter à la surface.
Alors, à partir de maintenant, vous allez la transporter, bien sûr, dans vos laboratoires. Voilà. Et là, on va les étudier dans vos laboratoires. Et ces souches, bien sûr, vont vous apprendre beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous allez chercher à savoir, grâce à ces souches?
Alors là, on a des spécialistes, donc notamment à l'ISEM, je peux lister Lucie Chabal, qui a travaillé beaucoup sur ce projet. On a des gens qui ont la capacité d'aller réidentifier non seulement la datation, ça on l'a un petit peu expliqué, mais en même temps la nature de la souche, et puis aussi de regarder tout ce qui est périphérique à la souche, à part l'étude en fait de la sédimentologie.
Alors
et de
on
la
découvre
croissance
tout de suite
racinaire.
Que ce sont des arbres qui étaient là et pas forcément les espèces qu'on connaît aujourd'hui.
Et alors pas du tout. On peut même y dire que c'était une forêt boréale qui était là, puisque nous sommes à une
ça
époque...
Ça veut dire quoi, alors?
Alors, boréale, c'est celle que vous trouvez dans le nord, en fait, oui. Aujourd'hui, dans les parties nordiques. Parce qu'il faut imaginer qu'à l'époque...
Alors, quel type d'arbre, hein?
Le chêne caducifolier. Donc, nous avons aujourd'hui du chêne vert, du chêne kermès, etc. Là, c'est vraiment le chêne rouvre en soi, de l'érable. Et alors, il se trouve qu'en plus, on l'a pas encore évoqué, il me semble, mais nous avons trouvé cette forêt au voisinage de ce qu'on appelle une paléoria. Pour faire simple, c'est l'ancien lit de ce qui serait le lèze de l'époque. Et donc, on serait aussi probablement sur ce qu'on appelle une ripisylve, qui est donc une forêt qui borde les rivières. Donc on a aussi trouvé du sol, ce genre de, vous voyez, d'espèces qu'on trouve dans ces contextes-là. Et donc cette forêt...
Le sol.
Du sol. Du sol
l'arbre ou le sol
L'arbre. Hein,
l'arbre,
en effet.
Voilà,
donc,
le sol.
Il y a une analyse qui a été faite, en fait. Et puis la reconstitution, en fait, du climat de l'époque, qui peut être faite à partir de cette situation. Et pour donner un petit exemple, on a notamment découvert, sous certaines souches, des charbons.
Des donc traces humaines.
Eh bien, trace non, pas humaine, désolé. On cherche, hein, là vous avez mis le doigt à l'endroit qui... On cherche une trace humaine, on n'a pas encore trouvé de trace humaine, mais ça voudrait dire que cette forêt qui a donc été sur un territoire qui est aujourd'hui émergé a dû brûler à une époque. Et donc la forêt s'est reconstituée sur un sol brûlé. Est-ce qu'il est d'origine anthropique ou pas? Il faut bien voir qu'on est quand même à moins 8000 ans, on commence à avoir les premières... on est au Mésolithique, plus précisément. On n'est pas encore au néolithique, avec une installation ferme. On a des campements. Alors, ça reste en fait des hypothèses, mais ce serait plutôt en fait une origine
par rapport à la grotte casquée qu'on commence à connaître bien maintenant et sur laquelle on a quand même pas mal d'informations. On se situerait avant ou on se situerait après ?
Alors on est bien après, hein, la grotte Cosquer. La grotte Cosquer correspond en fait, là on est carrément dans la période glaciaire.
Donc il y a eu des hommes avant.
Il y a eu des hommes avant, mais qui n'étaient pas forcément installés sur le territoire. On est plutôt au paléolithique avec la grotte Cosquer, avec vraiment des gens qui suivent les troupeaux, etc. C'est très bien expliqué d'ailleurs quand on va visiter reconstitution. Voilà. Et alors nous, en fait, on est sur une période qui est plus récente. On est à la transition entre le paléolithique et le néolithique. On est sur du, on dit mésolithique.
Oui, ça... alors on ne va pas perdre les gens, mais on va dire que entre le moment où ils ont vécu, il y a eu entre les deux une période glaciaire et on a fini cette période glaciaire.
Alors elle est terminée, depuis un moment, et nous sommes sur une période de réchauffement climatique
Vous dites souvent, en tout cas par rapport à vos recherches, qu'il a fallu un grand événement. Il y a sans doute fallu un événement important pour que les sables bougent, pour que les choses se mettent en place et que cette forêt, finalement, soit recouverte, qu'on puisse encore la retrouver. Donc, est-ce que vous avez réussi à savoir à peu près quel type d'événement avait pu se produire à ce moment-là ?
Non, c'est un événement qui correspond au niveau des datations qui ont été... évalué, qui correspondrait à la période de la mort de la forêt. Et en fait, si vous voulez, il y a eu des glaciers qui recouvraient le Canada et qui ont fondu. Et il y a eu une très grosse masse d'eau qui a pénétré dans l'Atlantique. Et on pense que... Je ne suis pas très compétente pour parler de ça, mais on pense que l'étroit de Gibraltar, à l'époque, était ouvert. Il avait été fermé, il était à nouveau ouvert, et que cette masse d'eau, quand même, a pénétré dans la Méditerranée, mais pas de la même façon que dans l'Atlantique.
Et elle est venue, donc, balayer un peu les choses.
Hein. C'est une hypothèse.
Alors, c'est une hypothèse que Thomas Perrin, du laboratoire Trace de Toulouse, émet, qui serait la suivante, pour reprendre ce que tu dis, Annie, c'est qu'on a un contexte lagunaire qui s'installe tranquillement chez nous, avec une montée des eaux relativement sereine. Et en fait, ça n'explique pas la rapidité. Alors, attention, on parle de rapidité à l'échelle géologique. Hein. 100 ans,
oui, alors,
c'est rapide.
Justement, 100 ans,
ouais,
voilà.
C'est rapide à cette échelle-là.
Parce que nous, tout à l'heure, on va parler de maintenant, et on va voir qu'on n'est plus du tout dans
alors
les mêmes...
Alors là, ce serait l'urgence.
Du tout dans les mêmes ordres d'idées de temps.
Et de temporalité. Voilà. Là, on est sur un temps qui, quand même, par rapport à nous, à notre échelle, qui est long, malgré tout. Et donc, on a un contexte lagunaire. Les lagunes commencent à sédimenter, les souches sont conservées, mais pour ne pas que ces souches pourrissent, il a fallu quand même qu'elles soient recouvertes relativement vite. Pour vous donner un exemple, ici, on a le lac du Salagou.
Oui.
Que vous connaissez. Oui. Si vous allez à Selles, vous trouvez des arbres encore, hein, qui sont encore émergés et qui dépassent. Alors le lac du Salagou a été mis en eau en 1968. Et vous voyez, il y a toujours ces arbres en place. Ils ne sont pas encore tombés. Mais comme on est dans un contexte de lac, avec une sédimentation forte, le jour où ils tombent, leurs souches vont être bien recouvertes. Donc c'est dans ce contexte-là. Sauf que, sur une échelle de temps aussi courte, malgré tout, à ces échelles-là, il a fallu qu'il y ait un événement un peu plus rapide.
Oui, quand même, parce que, par exemple, je vais vous donner un autre exemple en Guyane. Vous avez eu le lac de Petit-Sault qui, pareil, a été mis en eau assez relativement dans les années 90. Hein. Et donc, c'est pareil, on n'a pas coupé les arbres. Donc, aujourd'hui, il y a une société qui récupère les arbres pour en faire de la biomasse.
D'accord.
Donc, les arbres sont encore entiers, au cœur du lac, du barrage Petit-Sault, ils sont encore entiers. Donc là, il a fallu quand même un long temps pour que les arbres pourrissent, disparaissent, pour que vous puissiez récupérer ces souches.
Mais il faut qu'ils puissent être conservés, parce que sans ça, la mer remontant, on le comprend, avec l'hydrodynamique, tout est rasé. Alors, ce que suggère Thomas Perrin...
Oui, la mer pouvait bouleverser les choses et pouvait rien entraîner.
Mais vous avez carrément... Il faut bien imaginer qu'aujourd'hui, on a eu la chance de découvrir ces souches. Elles ne sont plus dans la gangue d'argile. Elles sont exposées à la battance de la mer et elles disparaissent. C'est-à-dire que celles que nous avons vues et prélevées, on a vu presque une quarantaine, on en a prélevé 13, 14. Ouais. Les autres vont disparaître. Alors, il y en a de nouvelles qui apparaîtront plus vers le...
Oui, d'accord.
Et donc, ce que Thomas Perrin suggère, c'est qu'effectivement, il y a une concomitance de phénomènes avec ce qui s'est passé dans l'Atlantique Nord, la fonte de ce qui serait l'équivalent du Groenland aujourd'hui, on en parle, hein, de cette calotte glaciaire qui est sur le Groenland, cette fonte, cette mise en eau d'une masse énorme de glace qui aurait effectivement généré ce qu'on pourrait appeler un tsunami, mais sur une échelle de temps plus longue, hein, que les tsunamis accidentels que nous avons aujourd'hui, avec une entrée d'eau massive en Méditerranée, et en particulier donc dans la zone qui nous concerne, et qui aurait favoriser la préservation en fait de ces souches.
Alors, je vous ai posé une question, bien sûr, quand nous avons préparé cette émission, qui était un petit peu naïve, mais est-ce que on peut tirer de l'expérience que vous avez eue et notamment de ce que vous avez découvert, est-ce qu'on peut tirer des leçons pour ce qui va se passer aujourd'hui?
Alors, déjà, il faut savoir que ces travaux vont permettre d'améliorer la connaissance que l'on a de la vitesse de remontée du niveau de la mer. Parce que c'est vrai qu'on parle d'estimateurs et c'est assez compliqué de le faire sur des espèces organiques. Parce que généralement, en mer, c'est fait sur autre chose que des espèces organiques. Donc là, on a un témoin organique qui va nous donner en fait un référentiel de l'évolution de la montée du niveau de la mer. Donc contribuer à cette courbe de remontée. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, ce qui peut être supposé et suggéré, c'est que, comme vous l'avez indiqué, on a une évolution des températures de 5 degrés en 20 000 ans.
Alors, maintenant, insistons peut-être un peu justement sur cette différence. On est sur 20 000 ans, on a 5 degrés.
Et ça a généré un bouleversement énorme, hein, puisque la forêt boréale a maintenant migré. On est, nous, maintenant dans du maquis. On a des territoires qui étaient totalement émergés, qui se retrouvent immergés. Donc, on peut effectivement, j'allais dire, suggérer l'idée que si en quelques centaines d'années ou en quelques dizaines d'années, on a une élévation de température de plusieurs degrés, 1, 2, 3, 4 degrés, comme le GIEC peut par exemple l'annoncer, on peut imaginer qu'on peut avoir des conséquences très significatives. Maintenant, lesquelles, là, pour le coup, on ne sait pas.
Oui, bien sûr, vous ne savez pas lesquelles vont avoir lieu. Et notamment, on ne sait pas, et personne ne sait encore aujourd'hui, malheureusement, comment les espèces vont s'adapter et vont évoluer. Oui. C'est quel type d'arbres on va pouvoir trouver encore sur nos côtes à la suite de ça. Mais votre recherche, en tout cas, ou votre découverte plutôt, nous renseigne, nous aide peut-être par rapport aux climato-sceptiques. C'est-à-dire tous ces gens qui nous ont dit « Oui, mais de tout temps, la Terre s'est réchauffée, de tout temps, la mer a monté, etc. » Vous avez-vous la preuve, d'une certaine manière, que ça s'est fait sur des centaines et des centaines d'années ? Sur des milliers d'années même.
L'évolution du niveau de la mer depuis 20 000 ans, en tout cas, elle a été extrêmement bien renseignée. Elle a été mesurée en différents points de la Terre. Et on a des courbes qu'on peut retrouver, hein, scientifiques, qui montrent qu'effectivement, un des tropismes de l'évolution de la température, c'est l'évolution du niveau de la mer. Là-dessus, il n'y a pas à revenir sur ce fait-là. Il se trouve que depuis 8 000 ans, on le dit à peu près, hein, comme ordre de grandeur, on a une accalmie de cette montée. Alors, les études récentes montrent qu'on aurait une tendance à repartir à la hausse, hein, avec un petit peu les mêmes pentes que celles qu'on avait lorsqu'on a eu l'initiation de ce réchauffement climatique. Et on leur octroie des causes anthropiques.
Oui, notre activité. Alors ça là-dessus, vous ne voulez pas vous prononcer, donc on renvoie au GIEC. Allez, continuons.
Voilà, c'est ça. Voilà. Alors ensuite, si vous voulez, une des questions qui se pose aujourd'hui, c'est comment, puisqu'on a effectivement énormément de gens qui vivent autour de ce littoral, comment est-ce qu'on peut, avec quelques prospectives, imaginer des scénarios pour pouvoir en fait soit déplacer les populations, soit aménager et accompagner, s'adapter en fait à ce réchauffement. Et il y a à Montpellier une école, entre guillemets, entre les géographes d'un côté, les gens de l'université Paul Valéry de l'autre et de l'université de Montpellier, un corpus de personnes qui ont déjà imaginé des stratégies. Je peux penser notamment à Frédéric Bouchette qui est
professeur
en hydrosciences.
Très récemment, parce qu'on a fait une émission sur finalement à la suite suite des études qu'avait fait Bouchette sur les vents et les vagues, la mise en place d'une vague de récifs artificiels au large de Palavas. Ouais. Donc,
alors, Frédéric Bouchette fait partie de notre projet. C'est le scénario que je vous ai décrit, c'est en partie lui qui l'a conçu. Et donc, je laisserai plutôt répondre à plus précisément à la question de l'évolution.
Oui, répondre à la question de l'évolution, mais si vous voulez, ce que j'aimerais qu'on parce que les auditeurs peuvent se trouver un peu perdus. Enfin, si vous voulez, c'est un peu comme quand on parle de milliards, hein, quand on parle de ces financements milliards, et puis qu'on compare finalement ce qu'on a comme salaire à 3 000 euros, on ne se rend plus bien compte des choses. Et finalement, là, on est sur une échelle de temps qui, par rapport à celle qu'on nous prédit, est quand même complètement différente. Donc, c'est pour ça que je me permettais d'insister un tout petit peu dessus, quoi.
Et là, on est plutôt à l'échelle de l'ordre de dizaines d'années. C'est ce que vous voulez indiquer aujourd'hui.
Oui.
Donc, on n'est plus sur la même temporalité.
Oui, on n'est plus du tout sur la même temporalité aujourd'hui. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Alors, vous allez, de ces études, vous voulez encore... vous allez continuer. Vous allez faire quoi, Annie?
Moi, je pense que nous allons continuer, de toute façon, nos recherches, parce que nous avons pas mal d'idées, de créativité.
Alors, et... quoi qu'est-ce que... Dites-nous un petit
mais
peu.
Certainement, quand même. On va revenir certainement sur de l'archéologie pure, c'est-à-dire sur ce qu'on avait découvert dans un premier temps. Enfin, pas découvert, réétudier des vestiges romains du début de notre ère. Mais parce qu'on doit aller revoir un petit peu tout ce qui n'a pas été fait.
Alors ça, c'est après, quand même.
On a aussi un autre projet. Donc, il y a effectivement autour de cette forêt encore plein de choses pour aider, en fait, à la compréhension de l'évolution du littoral. Mais on a une grosse énigme aussi dans la région. C'est le port de Saint-Louis. Alors, Saint-Louis, vous savez, à Aigues-Mortes.
Oui,
donc, il y a cette ville qui a été créée. Il y a eu un port. On ne l'a toujours pas trouvé. Et en fait,
Il y a des avis différents. On dit que finalement, c'est un port, mais un port au bord d'un
au bord de quoi?
Au bord de...
Alors justement, si on revisite avec la capacité que notre étude justement va nous permettre de redonner des éléments locaux.
Était-ce la mer, voilà.
Voilà. Était-ce l'étang? Était-ce la mer? Et est-ce qu'il n'est pas enterré aujourd'hui? Enterré, ça veut dire remis en fait sous des sédiments. Donc on va essayer aussi de s'intéresser à essayer d'amener des éléments sur la précision de sa localisation.
Très bien. Ouais. Donc, vous allez quitter un petit peu nos côtes pour aller plus loin?
Oui, si vous voulez, entre Carnon, Palavas et le Gros du Roi, on peut dire qu'on est juste à côté. Hein.
D'accord.
On reste dans le golfe d'Aigues-Mortes.
Vous comprendrez bien qu'on ne vous a pas donné le lieu exact, mais sachez que vous avez une petite merveille mondiale pas très loin de chez vous. Donc, entre Palavas et Carnon, on ne vous dit pas exactement où, parce qu'on ne veut pas que vous y alliez, parce que c'est très fragile et qu'il ne faut pas abîmer ce lieu. Et en tout cas, merci à vous, Annie et Thierry, pour la poursuite de vos recherches. Et puis surtout, belle plongée.
Merci Dominique.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur le 93.9.